le temps d'une chanson. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Bonjour, il est temps de remonter le temps en compagnie des bonnes chansons françaises. Octobre 1949. Le 6 octobre, c'est la chute du gouvernement d'Henri Queuil. Le 25 octobre 1949, l'accroissement de la violence des gangs de malfaiteurs qui profitent de l'affaiblissement marqué de l'État depuis la guerre oblige la police judiciaire à s'adapter au plus vite. Une circulaire du ministère de la Justice porte création dans chaque service régional de la police judiciaire d'un groupe de répression du banditisme, GRB, plus spécialement chargé de lutter contre les malfaiteurs motorisés, tels le gang des tractions avant, auteur de multiples vols à main armée. Le 27 octobre 1949, c'est le début du second gouvernement Georges Bidault. Le 28 octobre, le boxeur Marcel Cerdan est tué dans l'accident du vol Paris-New York Air France.
Édith Piaf attendait son amoureux, Marcel Cerdan, en 1949. Mais un crash d'avion anéantira leur relation. Celui qui aurait célébré ses 107 ans ce samedi 22 juillet 2023 est mort dans un terrible accident, qui n'a toujours pas révélé tous ses secrets. Un terrible drame, encore bien mystérieux. Le 28 octobre 1949, Michel Cerdan, qui aurait eu 107 ans, ce samedi 22 juillet, décède dans un crash d'avion. Le boxeur français devait rejoindre Édith Piaf, sa compagne, qui se trouvait à New York. Un voyage qu'il n'aurait pas dû faire puisqu'il devait rejoindre la célèbre chanteuse par bateau. Trop pressé de retrouver sa bien-aimée, le sportif prendra tout de même l'avion. À 33 ans, il est au sommet de sa gloire, ayant été sacré champion du monde des poids moyens un an auparavant. Dans l'avion qui ne l'amènera jamais aux États-Unis, 37 personnes sont à son bord. Ainsi, à 20h06, le 27 octobre 1949, l'avion décolle d'Orly. Une escale est prévue 2 heures plus tard sur l'île de Santa Maria et l'appareil doit atterrir à New York à 2h45. Si tout est sous contrôle, tout à coup, l'avion ne va plus répondre à la tour de contrôle. Et pour cause, il vient de s'écraser sur le versant nord d'une ligne de crête présente sur une île des Açores. Le reste du fuselage a littéralement explosé au moment du choc, constate le rapport de la commission d'enquête française, publié le 26 juillet 1950. Comment l'équipage a-t-il été amené à se croire 80 km plus au sud qu'il ne l'était réellement ? S'interrogent les enquêteurs. À bord de l'avion, l'équipage est expérimenté. Mais que s'est-il passé pour que l'appareil fasse une telle chute ? L'hypothèse d'une inversion de montage de certains instruments, radio compas automatique, est vite écartée. L'appareil avait été vérifié avec grand soin avant son départ et on s'en serait rapidement aperçu à bord. Écrivent nos confrères du Figaro. Une navigation inexacte, expliquant l'appréciation visuelle erronée du commandant de bord, est l'hypothèse la plus probable. Elle aurait pour origine une incroyable cause technique, l'interférence d'un signal venant d'une station de radioguidage située à Séville, distante de 1700 km des Açores. Les experts aéronautiques qui se sont penchés sur ce crash ont estimé qu'il était possible qu'une confusion entre le radioconsole de Séville et le radiophare de l'île de San Miguel, station dont les fréquences sont très voisines, ait contribué à un moment donné à induire l'équipage en erreur.
Les quais de la Seine, une chanson que l'on pouvait entendre en 1949, interprétée par Lucienne Delisle.
J'ai rencontré dans mes voyages des paysages sensationnels. J'ai regardé couler l'otage, j'ai vu Carthage sous le soleil. Il y avait trop de lumière et je préfère, oui mes amis, la douce fraîcheur de clairière de notre île Saint-Louis. J'adore les quais de la Seine, à la mine sereine des petits marchands, le calme du vieux bouquiniste dressant une liste d'un vendu charmant. Par là, dans le soir, se promène l'ombre de Verlaine poussée par le chant des violons qui la pénètrent et qui font connaître l'automne aux passants. Comme un ruban qui se déroule, le fleuve coule et puis s'en va. Le regardant seul et tranquille, boudant la ville, je reste là, improvisant mon cœur bohème, chante un poème reconnaissant. Le vieux clochard tirant sa flemme, lui, bien sûr, me comprend. J'adore les quais de la Seine, à la mine sereine des petits marchands, le calme du vieux bouquiniste dressant une liste d'un vendu charmant. Par là, dans le soir, se promène l'ombre de Verlaine poussée par le chant des violons qui la pénètrent et qui font connaître l'automne aux passants.
Les quais de la Seine, une chanson dont les paroles sont de Jean Dréjac, dont on a déjà parlé dans cette émission, auteur notamment de « Ah, le petit vin blanc »,« Sous le ciel de Paris », L'homme à la moto, une chansonnette pour Yves Montand et la musique est de André Lodge. Une autre chanson que l'on pouvait entendre en 1949.
Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des troupes. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier. La tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout.
Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, qu'à penser, j'ai ma tactique, attendez un peu de succès. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement.
Janvier 2003. L'année 2003 est en France celle de la réforme du système des retraites des fonctionnaires. La durée de cotisation passe de 37 ans et demi à 40 ans, s'alignant ainsi sur celle des travailleurs du secteur privé. Les enseignants font grève pendant plusieurs mois pour s'opposer à cette réforme. La grève du printemps 2003 s'étend partiellement à la poste et au transport public, mais le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin maintient son projet et la réforme est entérinée. Mais l'événement de l'année reste la très meurtrière et exceptionnelle vague caniculaire de la fin du mois d'août qui engendre plus de 26 000 morts en Europe, dont 15 000 en France. C'est la seconde plus grave catastrophe naturelle de l'histoire du pays, précédant l'éruption de la montagne Pelée en mai 1902 qui avait fait plus de 28 000 morts. Autre événement qui a marqué l'année du côté météorologique, ce sont les inondations exceptionnelles qui ont frappé le sud du pays à la fin de l'automne, avec des crues historiques enregistrées sur le Rhône et plusieurs de ses affluents, ainsi que la Loire, notamment dans le Loiret. Le 8 janvier 2003, le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, demande à l'administration Bush de fournir les preuves de l'existence des armes de destruction massive en Irak au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Vous savez le prix que la France attache depuis l'origine de la crise irakienne à l'unité du Conseil de sécurité. Cette unité repose aujourd'hui sur deux éléments essentiels. Nous poursuivons ensemble l'objectif d'un désarmement effectif de l'Irak. Nous avons en ce domaine une obligation de résultat. Ne mettons pas en doute notre engagement commun en ce sens. Nous assumons collectivement cette lourde responsabilité qui ne doit laisser place ni aux arrière-pensées, ni aux procès d'intention. Soyons clairs, aucun d'entre nous n'éprouve la moindre complaisance à l'égard de Saddam Hussein et du régime irakien. En adoptant à l'unanimité la résolution 1441, nous avons collectivement marquer notre accord avec la démarche en deux temps proposée par la France. Le choix du désarmement par la voie des inspections et, en cas d'échec de cette stratégie, l'examen par le Conseil de sécurité de toutes les options, y compris celle du recours à la force. C'est bien dans ce scénario d'échec des inspections et dans ce cas seulement que pourrait se justifier une seconde résolution. La question qui se pose aujourd'hui est simple. Considérons-nous en conscience que le désarmement par les missions d'inspection est désormais une voie sans issue, ou bien estimons-nous que les possibilités en matière d'inspection offertes par la résolution 1441 n'ont pas encore été toutes explorées?
22 janvier 2003, à l'occasion du 40e anniversaire du traité de l'Élysée, le président Jacques Chirac et le chancelier d'Allemagne Gerhard Schröder s'opposent à une guerre préventive des États-Unis contre l'Irak. l'attitude française sera sévèrement critiquée par le gouvernement américain.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.
Quelqu'un m'a dit est le premier album de la chanteuse franco-italienne et mannequin Carla Bruni, produit et arrangé par Louis Bertignac. Quelqu'un m'a dit est une chanson qui est sortie en 2002.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Après avoir été top modèle et actrice, Carla Bruni, née en 1967 et à l'approche de la trentaine, se voit auteur de chansons et propose ses chansons notamment à Julien Clerc et son album Si j'étais elle, dont Carla Bruni a écrit 6 des 12 titres. Puis elle se lance dans la préparation d'un album interprété directement par elle, avec à la musique un de ses amis, Louis Bertignac. Ceci donne cet album, quelqu'un m'a dit, sorti en novembre 2002, qui non seulement est un succès public, mais reçoit un accueil favorable des critiques et vaut à Carla Bruni une victoire de la musique en 2003 dans la catégorie artiste féminine de l'année. Pour le premier titre qui donne son nom à l'album, le texte a été écrit par Carla Bruni avec un de ses amis, le réalisateur Léo Carax. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, qu'elles passent en un instant comme fanent les roses. Quelques années plus tard, Carla Bruni devient à la surprise générale l'épouse d'un président de la République française, Nicolas Sarkozy. Le 17 octobre 1961, un massacre d'Algériens à Paris a eu lieu, marquant un épisode tragique de la guerre d'Algérie et de la décolonisation française. En 1961, la guerre d'Algérie était en cours et la tension entre les autorités françaises et le Front de Libération Nationale, FLN, était à son comble. Le 5 octobre 1961, un couvre-feu a été imposé spécifiquement aux Algériens vivant en France, ce qui a conduit le FLN à organiser une manifestation pacifique le 17 octobre pour revendiquer la levée de ce couvre-feu et l'indépendance de l'Algérie. Le 17 octobre, des milliers d'Algériens, y compris des femmes et des enfants, se sont rassemblés à Paris pour manifester pacifiquement. Cependant, la police française, sous l'autorité du préfet Maurice Papon, a réagi avec une violence extrême. Les forces de l'ordre ont attaqué les manifestants, entraînant des morts et des blessés. Les estimations du nombre de victimes varient, mais il est généralement admis qu'il y a eu plusieurs centaines de morts avec des corps jetés dans la Seine. Les événements du 17 octobre 1961 ont longtemps été marqués par l'oubli et le silence, tant au niveau officiel que dans la mémoire collective. Ce massacre est souvent considéré comme un symbole de l'amnésie d'État concernant les violences coloniales en France. Ce n'est qu'à partir des années 1980 que la mémoire de cet événement a commencé à être reconnue et discutée. Aujourd'hui, des commémorations ont lieu chaque année pour honorer la mémoire des victimes. Des appels sont faits pour que l'État français reconnaisse officiellement ces événements comme un crime d'État et pour que l'histoire coloniale soit intégrée dans les programmes scolaires. Le massacre du 17 octobre 1961 reste un sujet sensible et important dans le cadre des discussions sur la décolonisation et les relations franco-algériennes.
D'un seul coup, les CRS ont tiré. Et moi, je vois encore les hommes du premier rang tomber.
J'ai décrit les différents modes d'exécution, en particulier la strangulation. Et puis d'autres étaient assommés, jetés dans la Seine à moitié assommés.
Maurice Papon connaissait très bien l'état d'esprit de la police. Il suffisait de laisser faire pour que ça débouche sur les crimes qui ont été commis.
Début octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie. Maurice Papon, préfet de police de Paris, annonce l'instauration d'un couvre-feu à l'encontre de ce qu'on appelle alors les Français musulmans d'Algérie. Raison invoquée, lutter contre la vague d'attentats commis par les groupes armés du FLN envers des policiers. Pour protester contre ce couvre-feu, le FLN appelle hommes, femmes et enfants à une manifestation pacifique le 17 octobre. Ce jour-là, 20 000 à 40 000 personnes selon les estimations affluent vers Paris. Face à eux, 7 000 policiers et 1400 CRS et gendarmes mobiles, la répression sera terrible.
Ça commence par très tôt dans l'après-midi par une rafle, qui est une des plus grandes rafles de l'histoire de France, puisque la préfecture affirme avoir arrêté en quelques heures 11 500 personnes qui vont être concentrées dans des lieux de détention improvisés, comme le Palais des Sports à la Porte de Versailles ou le Stade de Coubertin. Se produisent dès ce moment-là des violences extrêmes, notamment une coutume policière qui est celle qu'on appelait le comité d'accueil, deux aides policiers qui tabassent les Algériens arrêtés. Voilà. Et puis, dans Paris, se produisent des meurtres.
Les forces de l'ordre ouvrent le feu sur les manifestants. Certains sont battus à mort, d'autres jetés dans la Seine. Bilan officiel, 3 morts, 2 Algériens et 1 Français. Selon les historiens, la réalité serait plutôt de plusieurs dizaines de morts pour la seule journée du 17 octobre. Des faits couverts par Maurice Papon, le gouvernement de l'époque impose le silence et malgré la présence de centaines de témoins, une chape de plomb s'abat sur les violences du 17 octobre.
Il faut savoir est une chanson écrite en 1961 par l'auteur-compositeur-interprète arméno-français Charles Aznavour.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte gardé toute sa dignité. Et malgré ce qu'ils nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez bien sûr retrouver les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus. À bientôt.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.